Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
C'est Médiapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, avec toujours Catherine Ney, toujours à la réalisation Jean-Luc Arblade, toujours à la préparation Capucine Patouillet. Et avec nous, aujourd'hui, un homonyme, quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de parenté, je le précise, sinon il ne serait pas là d'ailleurs, Patrice Duhamel, journaliste, auteur de La République abîmée, avec Jacques Santamaria, aux éditions de l'Observatoire, sur 10 affaires qui ont ébranlé la France. Exceptionnellement, nous n'allons pas commencer par Canteloup, que nous retrouverons tout à l'heure, parce qu'il s'est produit, comme vous le savez, un attentat à Paris, à la préfecture de police, et que c'est le parquet national antiterroriste qui désormais est saisi de l'affaire, ce qui veut dire qu'il y a une forte présomption qu'il s'agisse d'un attentat terroriste, et un attentat terroriste par un agent habilité secret défense et ayant accès à toutes sortes de renseignements en plein cœur de la préfecture de police, cet événement est évidemment considérable. Écoutez ce qu'en dit Jean-Pierre Maigret, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police.
Depuis 24 heures, vous avez un certain nombre de sites, tout un tas de gens qui imaginent cette piste. Et depuis 24 heures, on nous dit non, c'est tout sauf ça. D'une certaine manière, c'est un soulagement, au sens où on se dit qu'au moins l'enquête va aller au bout et qu'on va peut-être voir s'il y a eu des donneurs d'ordre. Au moins, on va creuser cette piste qui semble la plus évidente. On ira peut-être au bout de l'horreur, mais au moins, on se dira qu'on nous a rien caché et qu'on n'a pas fait dans le politiquement correct.
Alors, peut-être que c'est le seul point positif, celui que souligne Jean-Pierre Maigret dans cette affaire, c'est-à-dire que par rapport au discours complotiste répétitif, de toute façon, à chaque fois, on nous cache, on veut nous faire croire que ce sont des cinglés, des déréglés, des psychopathes, alors qu'il s'agit de terrorisme. Là, au moins ça, mais sinon, c'est quand même grave, Catherine.
C'est grave, mais alors, vous voyez, quand on interviewe les gens qui le connaissaient autour de chez lui, c'est toujours le même refrain. C'était un garçon si poli, si aimable, qui ne parlait pas. D'ailleurs, il était sourd, alors il était handicapé. Mais donc, la question, c'est, est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs dans un comportement? Est-ce que ses proches, ses camarades de travail ont noté des choses qu'ils n'ont pas fait remonter à la hiérarchie, qui auraient pu les alerter? C'est quand même incroyable que dans la préfecture de police de Paris, je veux dire, tout est vraiment, mais c'est l'endroit où il ne doit pas y avoir de meurtre. Bon, en plus, c'est quelqu'un qui avait dans son fichier toutes les adresses, paraît-il, de tous les policiers. Donc attention, danger. Est-ce qu'il a des complices? Enfin, il paraît que maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans ses ordinateurs, dans son téléphone portable, pour en voir un peu plus, en savoir un peu plus. Mais enfin, ça fait très peur. C'est quand même, c'est la première fois que ça arrive.
Patrice Duhamel, en bandeau de votre livre, il est écrit 10 affaires qui ont ébranlé la France. Est-ce que vous pensez que cet événement, qui n'est pas au sens strict du terme une affaire, mais qui est un événement absolument exceptionnel, absolument sans précédent, ébranle la France, la République, ou ébranle le pouvoir, ou que c'est un attentat dans une longue liste?
Si ce qui se dit aujourd'hui aboutit, s'il est avéré dans quelques jours, semaines ou mois que c'était bien un acte terroriste avec tout ce qu'il y a autour, ce qu'évoquait Catherine Ney, j'entendais un syndicaliste hier parler de séisme. C'est un séisme dans la police, c'est un séisme dans l'appareil de sécurité français, et c'est un séisme pour le gouvernement, forcément, de manière directe ou indirecte. Évidemment, il sera critiqué sur la communication, la gestion, etc., etc., mais je dirais aussi pour l'État, parce que je ne suis pas allé à la préfecture de police depuis longtemps, ça m'est arrivé. Il y a une impression étonnante quand on y va. Et lui, c'est le cœur de réacteur de l'État dans l'État de la police, quoi. C'est ça qui est absolument incroyable, parce que est-ce qu'il disposait, là où il était, en faisant la maintenance informatique, qui n'est pas rien quand même, ça veut dire qu'a priori, il a accès à énormément d'informations. Donc, est-ce qu'il était, je crois, secret défense? Donc, est-ce qu'il disposait d'informations vraiment confidentielles, voire secrètes, au-delà même des adresses des policiers? Est-ce qu'il en a fait, entre guillemets, profiter X, Y, Z, ici, ailleurs? C'est quand même les questions qu'on peut se poser légitimement aujourd'hui.
Donc on va se poser beaucoup de questions sur les défaillances à l'intérieur des systèmes de contrôle de la préfecture, les défaillances éventuellement au-delà, au niveau du ministre, etc. Par ailleurs, je voudrais votre réaction sur une hypothèse que je fais et qui n'est pas très réjouissante, qui est que avant même qu'il y ait des commentaires politiques par l'ultra-droite, des événements comme celui-là, des faits comme celui-là, sont à eux seuls producteurs de populisme xénophobe et anti-musulman. Ah, à ça, eux seuls.
Ah oui, bien sûr, ça c'est une évidence, oui, oui, oui. Et l'idée aussi que chez tout musulman, il y a un islamiste qui est dangereux. Vous voyez, ça va ancrer cette idée, ça c'est sûr.
Alors peut-être que ça rend... Les uns diront, et Patrice Duhamel va nous dire ce qu'il pense, les uns diront que ça justifie les discours extrêmes de Zemmour, et les autres diront que ça les rend encore plus dangereux, puisqu'on a des réflexes spontanés, si dangereux, si négatifs, venir les légitimer est encore plus grave. Vous êtes sur la première hypothèse ou
ah
sur
non,
la seconde ?
Je suis sur la seconde hypothèse, ça les rend plus dangereux, parce que l'idée que islam égale terrorisme est absolument insupportable. L'islamisme radical, l'islamisme politique, le terrorisme islamiste, c'est une chose. L'islam, non, on ne peut pas accepter ce genre de discours. Mais c'est assez... Je suis d'une grande naïveté, malgré mon âge, hein, mais c'est assez insupportable. Vous faisiez part des réactions immédiatement, le tweet de Marine Le Pen, etc. Ces espèces de réflexes pavloviens en se mettant à hurler, c'est un événement gravissime. Mais attendons, donnons-nous un peu le temps, quelques jours, quelques semaines, écoutons le procureur, on va voir ce qu'il dit. Il faudrait d'ailleurs que... Bon, il ne faut pas qu'il se précipite, etc. Mais il faudrait quand même qu'il réponde en tout cas à un certain nombre de questions. Voilà, j'entendais ou je lisais que ce criminel... aurait conditionnel, hein, moi je n'ai absolument pas la réponse, mais ce serait manifesté après l'attentat de Charlie Hebdo de manière assez favorable aux terroristes. Si c'est vrai, il doit le savoir.
D'après le Parisien, il aurait dit c'est bien fait. Voilà, s'il a dit ça, c'est quand même c'est étonnant. Ça aurait dû alerter.
Mais est-ce que c'est vrai ?
Mais oui, bien sûr.
Alors j'en reviens à la question. Si on considère que les propos d'Anne Zemmour prennent une couleur encore plus dangereuse, parce que du coup, elle pourrait inciter à la violence en parlant d'extermination, de colonisateurs qui veulent nous exterminer d'une guerre lancée par les musulmans. Alors, est-ce que ça pose la question des limites de la liberté d'expression ? Je crois que oui, que c'est une vraie question difficile, importante, fondamentale.
Oui.
Et on la traite dans quelques instants.
Comme tous les samedis, on vous retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney jusqu'à 11h dans Mediapolis. Et aujourd'hui, vous recevez le journaliste Patrice Duhamel qui vient de publier La République abîmée, 60 ans d'affaires aux éditions de l'Observatoire.
Oui, alors problème, comment traiter Éric Zemmour après ses propos devant la convention de la droite où il a dit en gros que tous les immigrés étaient nos ennemis et qu'il fallait se venger d'eux.
La convention de l'extrême droite qui s'était appelée convention de la droite, dirais-je.
Ben écoutez, c'est un rectificatif. En tous les cas, elle s'appelait convention de la droite. En tous les cas, extrême droite, Marine Le Pen avait défendu au Rassemblement national d'y participer. Et il y avait quand même une majorité de républicains. Voilà, pour votre information. Et donc, Éric Zemmour a fait un discours qui a d'ailleurs choqué l'assistance. Il a dit, il a plombé la fête un petit peu. Il est allé trop loin, je vous le dis. Bon. Donc, comment le traiter aujourd'hui ? Déjà, RTL lui a supprimé sa chronique. Est-ce que les médias doivent aller plus loin ? Par exemple, CNews doit-il lui donner l'émission qui était prévue, qui n'est pas encore signée, où il devait tous les soirs intervenir comme débatteur, et c'est un bon débatteur, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ? Voilà, cette question se pose, et on a posé la question à François Hollande.
Votre ami ?
Mon ami, bien sûr, et il a
non,
répondu.
Non, je taquine.
Il n'y a pas que le mur entre la droite et l'extrême droite qui est pour eux. Il y a le mur dans les médias qui est pour eux. On parlait d'Éric Zemmour, il travaille dans des organes de presse, et pas n'importe lesquels. Et si l'on pense qu'il tient des propos qui dépassent toutes les limites et qui franchissent toutes les digues, il y a bien un moment où il faut prendre des responsabilités. On a toléré des sorties, des jugements, des diatribes Il y a même des émissions à la télévision qui sont organisées pour qu'il y ait ce type de polémique.
Il y a pas... quelque chose qui vous inquiète, là, dans l'état de l'espace public
malgré
aujourd'hui
tout, il y a une banalisation du pire.
C'était avec le camarade concurrent Nicolas Demorand sur France Inter lundi. Patrice Duhamel, François Hollande a exprimé un point de vue. Catherine Ney a posé les questions qui fâchent, mais qui sont les questions importantes. Prenez vos responsabilités et dites-nous ce que vous, vous estimez.
Écoutez, moi je pense tout simplement que, et c'est son choix, parce que c'est un garçon intelligent, donc il savait parfaitement ce qu'il faisait en allant dans cette convention, en s'exprimant comme il l'a fait, en faisant un discours...
si vous construisez vos phrases à l'allemande en mettant « et c'est son choix », machin, on ne comprendra rien. Alors,
et il a changé de statut. C'était un journaliste d'opinion, polémiste, et de mon point de vue, c'est devenu un acteur politique qui mène un combat politique contre l'islam et contre l'immigration. Donc il a changé de statut. À partir du moment où il change de statut, il est considéré de manière différente dans ses interventions médiatiques. Est-ce qu'il faut pour autant l'interdire d'antenne en permanence sur tout ? Alors à mon avis, c'est évidemment non, parce qu'il ne faut pas en faire un martyr, et il deviendrait un martyr, puis de toute façon, il pourrait s'exprimer totalement librement sur Internet, etc., etc. Mais je pense qu'il faut le considérer comme un acteur politique, c'est-à-dire quand il est face à des journalistes interviewés comme un acteur politique et non pas comme un confrère lambda même engagé. Et quand il est dans des débats politiques, eh ben c'est un acteur, il mène un combat et donc on est face à lui, pour ceux qu'il souhaite, valeur contre valeur, conviction contre conviction, chiffre contre chiffre...
voilà, Catherine Ney,
je pense
d'accord
que c'est comme ça qu'il doit être considéré.
Oui, oui, il a un peu changé de registre.
Il a bien changé de registre.
Vous savez, quand on l'a vu à la tribune, enfin j'en ai vu des extraits, ce qui ajoutait à la dureté de ses propos, c'était un peu l'image. Parce que c'est vrai que c'est un bon débatteur, c'est un bon polémiste. Je ne dirais pas que c'est un grand orateur. Et en l'occurrence, ce jour-là, je crois qu'on m'a dit qu'il était malade, il avait pris de la cortisone, il transpirait. L'image, en plus, ne le servait pas. Ça a ajouté au tragique.
C'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un va trop loin, on dit « Oui, mais quand il a parlé du bruit et de l'odeur, Jacques Chirac, il avait bu 4 Corona. » Là, on dit « Oui, mais il était sous cortisone. » À chaque fois, on trouve des explications.
Et puis son texte était écrit quand même. Hein.
Son texte était écrit. Mais voilà. Non, mais je veux dire que l'image ajoutée. Bon, vous êtes d'accord ou pas? Bon, voilà. Et d'ailleurs... Robert Ménard, qui était son ami, avec qui il avait été faire des réunions à Béziers, s'est désolidarisé en disant que là, il allait trop loin et que s'il faut dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on est envahi, que ça y est, c'est la fin du monde avec les immigrés, il ne viendrait plus. Oui. Donc on peut dire qu'il a quand même plombé la réunion.
Par ailleurs, même comme homme politique, la question du respect des limites de la liberté d'expression est très compliquée. Et où est-ce qu'on met le curseur? Et c'est beaucoup plus facile à contrôler en presse écrite, parce que le directeur de la rédaction du Figaro Magazine peut dire à Zemmour, avant de publier son article, non, il ne peut pas y avoir cette phrase qui parle de l'extermination, et hop, il ne met pas la phrase. Mais à la radio, à la télé, en direct, on ne peut pas contrôler ces choses-là. Et en France, on a quand même une limite à la liberté d'expression, c'est l'appel à la haine raciale et à la discrimination.
Il y a une dimension potentiellement pénale. Il a été définitivement, il y a quelques semaines, condamné, c'est la Cour de cassation qui a confirmé ça, pour provocation à la haine religieuse. Là, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet.
Vous dites qu'on est colonisé et que c'est pour nous exterminer et qu'il faut résister, c'est quand même un appel à la violence et à la guerre.
Il a dit, entre guillemets, « Les immigrés se comportent en colonisateurs. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité, sur la terre de leurs ancêtres ?»
Oui, alors que le professeur au Collège de France, François Errand, vient de dire qu'une minorité n'envahit pas une majorité sur la base de la natalité, quoi, qu'il faut un peu se calmer, qu'il faut faire attention. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle va être la décision de Vincent Bolloré sur CNews. Est-ce qu'il va signer le contrat de Zemmour, alors que des journalistes ont peur parce qu'ils disent, comme il va y avoir des fatwas sur sa tête, c'est dangereux peut-être de débattre avec lui. Il y a une peur dans les rédactions.
Écoute Mediapolis, Vincent Bolloré. Et écoutez, chers auditeurs, cet appel à la sagesse que vient de vous lancer Catherine Ney. Pendant ce temps-là, les affaires continuent, mais pas dans le bon sens du mot les affaires. On y vient dans 2 minutes.
Duhamel, journaliste et co-auteur de La République abîmée, 60 ans d'affaires aux éditions de l'Observatoire, et l'invité d'Olivier Duhamel et Catherine Ney ce matin dans Mediapolis.
Édouard Balladur et François Léotard, qui était son ministre des Finances, seront jugés par la Cour de justice de la République. C'est sorti cette semaine. Alors, pour évoquer ces affaires, eh bien, je passe tout de suite la parole à Édouard Balladur. À Nicolas Cantelou.
Édouard Balladur est renvoyé devant la Cour de justice de la République à 90 ans. Bonjour, monsieur Balladur.
Oui, bonjour, madame Julie. Bernadette, ma femme adorée, êtes-vous là ?
Bernadette ?
Oui, à mon œuf mayonnaise qui m'a parlé.
Mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous appelez Bernadette ?
Bon, je vous dis la vérité, je tente de simuler le zinzin. Ça a marché pour monsieur Chirac. Bernadette !
Mais...
Ah bon, non, c'est pas ça. Non, ma femme, c'est une autre.
Mais c'est quoi ce comportement ? Je crois que vous allez très bien, hein, monsieur Balladur. Votre campagne présidentielle de 1995 aurait été financée à hauteur de 2 millions d'euros par des rétrocommissions. Voilà l'histoire.
95. Parlons-en de 95. Rappelez-moi la mémoire.
Quoi ?
Réfléchissez-moi la mémoire. J'avais gagné la présidentielle en 95.
Mais non, vous avez perdu contre Chirac.
Hein, eh bien, alors voilà, si j'ai perdu, pourquoi tu m'emmerdes, Leclerc ? Hein ? Je suis même pas capable de gagner en trichant. Quelle vie de merde j'ai eue, finalement. En plus, je suis en pleine forme, monsieur Béliard. Je suis parti pour avoir une vie de merde jusqu'à 115 ans.
Assez réussi, Nicolas Cantelou. C'était hier vendredi sur Europe. Pourquoi c'est pas dans votre livre, l'affaire Karachi, Patrice Duhamel ?
Parce que, d'abord, on a fait un choix subjectif. Il y avait des affaires qu'on avait envie de raconter.
Ouais.
On a privilégié des affaires qui comportaient encore des mystères. Pas sûr, ouais. Pour en dire un mot.
Excusez-moi, mais l'affaire Karachi comporte encore des mystères.
L'affaire
ouais.
Ben Barka, l'affaire Boulin.
Ouais.
On n'avait pas envie, en dehors de l'affaire Fillon, qu'on ne pouvait pas ne pas traiter, notamment sur ses conséquences politiques pour la droite. On n'avait pas envie d'évoquer des affaires qui judiciairement ne sont pas terminées. D'abord,
ah, il est doué le Patrice Duhamel,
ah ben non.
Parce qu'il dit, je m'attendais à ce qu'il dise pas des affaires judiciaires qui ne sont pas terminées.
Mais il
et
a
j'allais
raison.
Lui dire, ouais, mais Fillon alors.
Eh ben,
le dernier chapitre
sur
Fillon.
Oui, mais
alors il dit sauf Fillon.
Ben si, il y a eu un résultat voilà. Puisqu'il a pas pu, il a été battu.
Non, d'accord, mais l'affaire judiciaire est pas terminée, Catherine Ney, vous le savez.
Non, mais
il y a déjà un résultat.
On traite
mais l'argument,
une sanction.
Non, arrêtez de voler à son secours quand il a tort. Excusez-moi. Il dit qu'il ne traite que des affaires judiciairement terminées. Sauf que l'affaire Fillon n'est pas judiciairement terminée. Et là, il dit parce que là, on ne pouvait pas faire autrement. Mais là, on ne pouvait pas faire
parce
autrement,
que
c'est une tautologie.
Dans le chapitre sur l'affaire Fillon, on privilégie les conséquences politiques sur la droite.
Ah, d'accord.
Mais il y a aussi d'autres affaires qui ne sont pas judiciairement terminées. L'affaire Boulin, il y a un deuxième juge d'instruction qui a été désigné au début de l'année. On sait toujours
bref,
pas.
Vous avez voilà. Traité les affaires que vous trouvez policièrement, judiciairement
S'agissant de l'affaire Balladur, quand on a terminé le livre avant l'été, on ne savait même pas s'il allait être envoyé devant la Cour de justice. Donc quand même...
Ok, alors je vous pose maintenant la vraie question. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'affaires au XXIe siècle, et particulièrement dans les années actuelles, qu'il y en avait dans la deuxième moitié du XXe siècle ? Ou est-ce que pas du tout, mais un, elles sont plus révélées, parce que les juges sont plus indépendants et plus offensifs, et deux, on a tendance à en plus élargir la notion d'affaire et on vous fait une affaire pour un homard.
Voilà, et ben, les deux réponses, il y a plus d'affaires révélées, celles qui n'étaient pas révélées dans les années 60, 70, par principe, on ne les connaît pas ou on ne s'en souvient pas, puisqu'elles n'étaient pas révélées.
Quand même qu'à l'époque, les hommes politiques pouvaient se faire financer n'importe comment sans qu'on vienne les emmerder.
Il
n'y
avait pas de loi de financement.
Ça n'était absolument pas organisé. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a maintenant des affaires, l'affaire de Rugy. Jamais on n'aurait fait un chapitre sur l'affaire de Rugy dans notre livre si on avait fait le livre dans un an, deux ans ou trois ans.
Oui, à l'époque, un ministre n'aurait pas démissionné parce qu'il avait offert du homard à l'Assemblée nationale.
Je ne sais pas quel est le pourcentage de vos auditeurs qui se souvient ou qui connaît l'affaire Ben Barka, qui est le premier chapitre du livre. C'est quand même
affaire. C'est quand même l'élimination.
Absolument incroyable. Vous avez l'opposant du roi du Maroc.
Ouais.
Qui en plus a une des grandes voix du tiers-monde, au-delà même du Maroc.
Qui est kidnappé et assassiné.
Qui vient à Paris. Il est enlevé et il y a 50 en 65, 54 ans.
C'est alors, pas on de la traconte, hein, Patrice Duhamel.
Je fais en deux minutes. Il est enlevé devant chez Lip en plein Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
Il est embarqué par un mélange de barbouze à l'initiative d'un. ministre de l'Intérieur marocain, il va être assassiné, bien entendu. Et on a, 54 ans après, on ne sait toujours pas où est le cadavre. Assassinat politique incroyable, sans cadavre, avec des complicités de la police française, des services secrets français, des barbouzes, du grand banditisme.
Et il n'y avait pas eu de sanctions politiques. Il y a eu des sanctions judiciaires sur un ou deux, finalement.
Il y a eu une sanction politique avec quelques années. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, a changé de portefeuille.
Vous rigolez Il est devenu président du Conseil constitutionnel.
Non, mais en 1974, des années après.
Enfin, c'est pas une sanction politique.
Non, mais parce que moi, je...
Il y a eu des sanctions, il y a eu une réorganisation. Parce que ça s'est fait dans le dos de Gaulle. Hein,
Maurice Clavel avait mis, le philosophe Maurice Clavel, gaulliste, gauchiste, semi-cinglé, avait mis en cause le pouvoir politique avec cette formule absolument coupante et définitive. Coupable ou incapable.
Oui, mais il n'y avait pas que Maurice Clavel, il y avait Jean-Jacques Servan-Schreiber qui, dans l'Express, menait tout un combat contre Roger Frey, lequel, d'ailleurs, aurait dit, quand on lui avait parlé de Ben Barka, il avait demandé qui est cet Algérien. Il ne connaissait pas Ben Barka. Bon, alors c'est peut-être ça sa faute, hein. Il ne savait pas que c'était l'opposant au roi. Ce qui est extraordinaire, c'est que le ministre du roi, c'est Oufkir, c'est lui qui avait organisé à Paris cet assassinat.
Avec des complicités françaises de haut niveau, dans le dos du général.
Conclusion de l'histoire, il y a eu des affaires bien pires autrefois qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, on fait des affaires de beaucoup de choses, beaucoup plus volontiers.
Ce qui s'appelle faire
Un potager avec un chou. Chers auditeurs, vous en apprenez tous les jours grâce à Catherine Ney. Non seulement soyez mesurés à l'égard des musulmans, mais voyez si vous pouvez faire un potager avec un chou. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Macron va faire des retraites? Eh bien, comme aucun de nous trois n'est à la retraite, on va traiter le sujet dans 2 minutes.
De 10h à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney, vous recevez le journaliste Patrice Duhamel qui vient de sortir « La République abîmée, 60 ans d'affaires » aux éditions de l'Observatoire.
Oui, mon homonyme, hein, aucun rapport de famille avec Patrice Duhamel. On vous a annoncé qu'on allait parler des retraites il y a 2 minutes, mais cette émission est faite en direct. Pendant la pub, il nous arrive d'échanger. Et Patrick Duhamel disait qu'il regrettait de ne pas avoir parlé d'une des affaires qui était une des raisons d'être pour laquelle il avait écrit ce livre, à savoir l'affaire Baudis. Et comme ce qu'il a à dire sur ce sujet est totalement médiapolitique, d'une part, et que d'autre part, Catherine a dit « Écoute, c'est beaucoup mieux qu'on traite ça que les retraites », eh bien, on en vient à cela. Alors, vous n'allez pas nous raconter toute l'affaire Baudis. Vous allez très brièvement nous dire en quoi cette affaire met gravement en cause à un moment donné, le fonctionnement d'une partie des médias.
Et déjà, ce n'est pas l'affaire Baudis. Et moi, quand on disait l'affaire Baudis en 2003, quand elle a éclaté, il y a 16 ans, ça me rendait fou furieux. C'est l'affaire Allègre, le tueur en série à partir...
C'est l'affaire Allègre, voire l'affaire Baillet.
Oui, enfin, c'est autre chose.
Si, parce que c'est média qui met en cause.
Voilà. Alors, en un mot, Dominique Baudis, alors président du CSA, ancien maire de Toulouse... dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Alec, qui était un tueur en série, etc., se retrouve accusé de manière hallucinante, puisqu'il est apparu très vite, même si le non-lieu a pris un peu de temps, qu'il n'avait bien entendu absolument rien fait là-dedans.
Mais accusé de quoi
De viol.
Oui, viol, torture.
De torture, d'actes de barbarie, de participation à des soirées sadomasochistes, etc., etc.
Le problème, c'est que c'est relayé.
Et à partir de là... Il y a une espèce de torrent médiatique qui part de Toulouse.
La Dépêche du Midi, dirigée par la famille Baillet, opposée de longue date politiquement à la famille Baudis. C'est pour ça que je dis qu'on peut aussi dire
a été maire de Toulouse et son père avant avait été maire de Toulouse. Et relayée par un certain nombre de médias avec des épisodes absolument...
Un certain nombre, par exemple ?
Non, ben, Le Monde,
Canal+. Le Monde, c'est-à-dire le média de référence.
Voilà, il y a eu un papier dans Le Monde, notamment. Mais Le Monde... courageusement, des mois et des années après, a fait une contre-enquête, a regretté, a présenté ses excuses, etc.
Ce qui est incroyable, c'est que Le Monde l'ait relayé. Quoi.
Mais il y a eu juste 30 secondes, un épisode, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais hallucinant. Il y avait un jeune qui s'appelait Jamel, qui se présentait lui-même comme un travesti, etc., qui allait voir les journalistes en leur disant je suis le fils naturel de Michael Jackson, rien que ça, et j'ai vu des partouzes avec... les présidents de la République, des premiers ministres de gouvernement étrangers, la moitié du showbiz, et il était interviewé sérieusement.
Alors c'est des choses absolument... Ça pose un problème considérable.
Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ça serait absolument effrayant.
Oui, mais moi, je me souviens d'un papier dans Le Monde où Jean-Paul Bessé écrivait qu'il avait visité une maison, que les gendarmes lui avaient dit qu'il y avait des anneaux où on attachait peut-être des prostituées à hauteur d'enfant, qu'il y avait du sang sur la moquette, enfin... Et donc, et que Baudis participait à ces fêtes. C'était sous-entendu.
Il n'avait pas cité Baudis, il parlait de personnalité.
Oui, personnalité, tout le monde comprenait.
Mais dans le cœur de papier, il y avait un encadré avec la polémique entre Baillet et Baudis.
Oui, mais moi j'avais lu ça, mais j'étais terrifiée, parce que je me disais, un journal comme Le Monde, dirigé par des gens éminents, comme Edoui Plenel, ne pouvait pas dire de mensonge, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et je connaissais bien Dominique Baudis, et je crois que cette histoire-là, bouleversée au point, je pense que ça l'a rendu malade, et je pense que là, je peux dire qu'on a eu sa peau.
Eh bien, c'est pour ça que c'était important de le traiter dans Mediapolis, et les retraites, on aura 10 fois l'occasion d'y revenir, et là, c'est heureusement. Mais il y a au moins 2 leçons là-dedans. Il y a une première leçon, c'est que des gens peuvent être mis en cause de façon totalement fausse, et que pendant des semaines et des semaines et des semaines, on martèle leur nom, alors qu'ils sont intégralement innocents.
Oui.
Et qu'il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu si tel est mis en cause. Et la deuxième chose, et que ça, les médias devraient y attacher une plus grande importance qu'aujourd'hui,
absolument,
et être infiniment plus prudents.
Absolument.
Et la deuxième leçon, c'est que dans certaines affaires, évidemment pas dans toutes, mais dans certaines affaires, particulièrement celles où on accuse à tort, c'est une manipulation politique. Parce qu'au départ, c'est une manipulation politique, je le maintiens, des adversaires politiques sur Toulouse, comme l'affaire Markovitch contre Pompidou, où on accusait sa femme de partouzer, était une accusation politique de gaulliste de gauche qui ne voulait pas de Pompidou. Donc au moins, prenons les leçons de cette histoire-là.
Mais dans l'affaire Markovitch, les médias se sont bien tenus. Il y en a très peu qui l'ont
absolument
mis en...
Oui, enfin, Yves Mourouzi sur France Inter, il y a des exceptions, hein. Alors, maintenant, pas sur Europe. Europe, c'est très bien tenu. Non, tout à l'heure, on a fait de la pub France Inter, là, hop, un petit tacle. Bon, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Il y a une autre affaire, qui est une affaire politique qui peut mettre en cause Trump. On l'évoque dans 2 minutes.
Vous retrouvez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis jusqu'à 11h. À leur côté ce matin, Patrice Duhamel, journaliste et co-auteur avec Jacques Santamaria de La République abîmée, 60 ans d'affaires aux éditions de l'Observatoire.
Est-ce que les démocrates américains vont pouvoir suivre l'adage rappelé par Catherine Ney, faire un potager avec un chou? Écoutez, jusqu'à présent, on pensait qu'il était totalement impossible que l'impeachment à l'encontre de Trump aboutisse. Mais Alice Baudry, qui dirige la stratégie et le développement à l'Institut Montaigne et veille à travers les médias internationaux pour nous repérer ce qui compte, nous a signalé un article du Washington Post du 27 septembre, recommandé par le think tank Brookings, et qui dit « La présidence Nancy Pelosi a accusé Trump d'avoir trahi son serment, la sécurité nationale et l'intégrité des élections américaines. » En réponse, la Maison-Blanche a publié des notes détaillées provenant d'un appel téléphonique passé cet été par Trump, dans lequel il avait fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il enquête sur ses rivaux politiques. Plus récemment, il a également publié la plainte de dénonciation qui concernait l'appel et qui avait conduit au lancement de l'enquête. Alors, on parle beaucoup de ces attaques du côté démocrate, mais que se passe-t-il du côté des républicains, poursuit l'article. Eh bien, les républicains semblent réagir comme ils le font depuis l'élection de Trump, attaquer l'enquête d'impeachment, défendre le président à tout prix. Mais, le soutien pour le président cette fois pourrait ne pas être aussi solide qu'il y paraît. Lorsque le chef de la minorité du Sénat, Charles Schumer, démocrate donc, a demandé au Sénat de demander à la Maison-Blanche les renseignements fournir les renseignements au comité de renseignement du Congrès, fournir les pièces au comité d'enseignement du Congrès, puisque je suis sur une traduction, le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, n'a pas vu d'inconvénient et ça a été voté à l'unanimité. Donc, ils sont obligés de transmettre ces informations. Par ailleurs, certains républicains expriment publiquement leurs préoccupations au sujet du comportement de Trump, tandis que d'autres le font en privé aux journalistes. Au fur et à mesure que plus d'informations deviennent disponibles, plus de républicains pourraient briser les rangs. Et la fin de l'article rappelle que le moment venu, il en faudrait 20 pour pouvoir empêcher, renverser, révoquer Trump. Patrice Duhamel, qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Ça m'inspire avec modestie, puisque Olivier Duhamel, c'est l'un des rares sinon le seul qui ait pronostiqué il y a quelques années la victoire de Trump. C'est donc les pronostics que je vais faire sur les États-Unis, c'est sous son contrôle.
Bon, et alors, aujourd'hui, votre pronostic?
Il faut rajouter que visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé aussi du côté du Premier ministre, avec le Premier ministre australien.
Absolument.
Depuis ce papier.
Non, pronostic, juste pour répondre à Catherine. J'ai pas de pronostic, j'ai juste un point précis, parce qu'il y a des moments où c'est trop tôt pour dire. Ce que je dis, c'est que, alors, c'est pour ça qu'on a choisi cet article avec Alice Baudry, alors qu'on pensait, et on disait, les commentateurs, un peu vite, l'impeachment est impossible, puisqu'il faudrait que 20 républicains basculent au Sénat, et qu'il n'y aurait jamais une majorité de tiers, blablabla. Bla, bla. Moi, je dis, au fur et à mesure qu'on en apprend plus et plus et plus, ça n'est pas impossible, c'est tout. C'est
non, mais juste, moi, de ce que je vois des tweets de Trump, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il est plus sur la défensive que sur l'offensive. Il est en réaction et il ne prend pas d'initiative. Donc, de ce côté-là, on le sent vulnérable. Est-ce que pour autant, il y aura les 20 sénateurs républicains? Ça,
On en vient toujours à la même chose. Dans la communication politique, le plus difficile pour le pouvoir politique, quel qu'il soit, ce sont les situations imprévu de crise. Et là, c'est exactement ce qui arrive à Trump, puisqu'il y a révélation sur révélation et il se prend ça en pleine figure. Toute chose égale par ailleurs, parce qu'évidemment, ça n'a aucun rapport, sauf sur ce point. Rouen et l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'est exactement un événement imprévu, lourd, mauvais, catastrophique, inquiétant, et le pouvoir politique se trouve donc confronté à une situation imprévue de crise. Et comme souvent dans ces cas-là, eh bien, sa communication foire, pour le dire franchement. Et pourquoi est-ce qu'elle foire? Parce qu'elle est contradictoire, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que quoi. C'est vous qui nous le direz, Catherine et Patrice. Duhamel pour Patrice, Ney pour Catherine, dans 2 minutes.
Jusqu'à 11h, Mediapolis continue sur Europe 1. Ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney reçoivent le journaliste Patrice Duhamel qui vient de publier La République abîmée, 60 ans d'affaires aux éditions de l'Observatoire.
Grand silence du gouvernement pendant un premier temps, et c'est pour ça que nous vous avons laissé ce petit espace pour la réflexion, avant que se pointe à Rouen pour des passages relativement brefs, des ministres tenant des propos partiellement contradictoires. La ville est polluée, dit la ministre de la Santé, il n'y a pas de polluants dangereux, dit la ministre des Transports, ou à peu près, passage éclair. Est-ce que ce n'est pas exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire, Patrice Duhamel ?
En communication de crise, quand il y a un événement qui est visuellement aussi fort, c'est extrêmement difficile. Donc, je garderai bien de donner des leçons. Simplement, il y avait évidemment un manque de coordination. Il y avait plusieurs voix, vous venez de le dire, discordantes. On avait l'impression que... On ne savait pas très bien quels experts. Alors là, ils viennent de nommer un expert unique. Je pense qu'ils auraient pu ou dû le faire dès le début. Et sans doute en dehors d'Agnès Buzyn, qui a eu, je crois, les mots qui convenaient. Mais peut-être aurait-il fallu qu'elle reste à Rouen un jour, deux jours, trois jours.
Oui, c'est la thèse développée par mon cher confrère et ami Jérôme Jaffray sur LCI hier soir. C'était qu'il fallait mettre un ministre qui reste sur place et qui rende compte quasi heure par heure, ou en tout cas demi-journée par demi-journée. Voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on attend, et qu'à ce moment-là, les choses auraient été différentes.
Moi, je crois que le malheur pour le gouvernement, c'est que cette affaire qui a vraiment impressionné tout le monde, parce que cet énorme nuage noir, on disait qu'elles vont être les retombées, et surtout que la fumée, les vents les ont emportés jusqu'à 200 km à la ronde, puisque 1800 agriculteurs ne peuvent plus ni vendre leur lait, ni les légumes. Enfin, je veux dire, ça va mettre toute une région en chômage économique pour un certain temps, on ne sait pas combien de temps. Moi, je crois que normalement, une cellule des crises aurait pu être constituée tout de suite, soit à Matignon, soit à l'Élysée même. Mais il y avait Jacques Chirac. Il y avait les obsèques de Jacques Chirac qui occupaient. Ce n'est pas pour excuser le gouvernement, hein, pas du tout.
Bon. Là, plutôt, ça accuse ce que vous dites, Catherine, si vous me permettez. Ça critique implicitement les médias d'avoir donné une place déséquilibrée par rapport à l'incendie de Rouen.
Tout le monde. Là, non, c'est vrai qu'il y avait. C'est-à-dire que dans la gradation de l'émotion, Il y avait d'abord Jacques Chirac.
Moi, j'irais. Ouais, moyennant si ça avait... quoi, il y a eu des mauvaises audiences sur les trucs de Jacques Chirac. Oui. Et telle ou telle chaîne aurait donné un peu plus d'importance à Rouen.
Oui, sans
plus,
doute.
Ça lui aurait été profitable.
Mais vous savez, par exemple, quand il y a eu l'explosion d'AZF en 2001, là, l'émotion a été énorme. Parce
il y avait
15 morts et 2500 blessés. Là, pour l'instant, les dommages peut-être viendront à terme, c'est-à-dire combien de temps la pollution va entrer dans les corps, dans les...
Des usines Henri Céveso, il y en a partout en France.
Mais oui, mais
il y a des millions et des millions de personnes qui habitent près d'usines Céveso.
Mais là, c'était... Ça... Bon. Et donc, c'est vrai que le gouvernement a un peu tardé à réagir. Mais il voulait... quand on dit qu'il faut faire la transparence, bon, il fallait d'abord savoir quels étaient les éléments toxiques, quelles étaient leurs natures, la combustion... de ces mélanges de produits toxiques, produits quoi ? Il fallait consulter les spécialistes.
Mais le ministre sur place aurait dit, écoutez, ça, on ne peut pas le savoir, on est en train de l'étudier, et dès qu'on le sait, on vous le dira.
Oui.
Et dire ça toutes les trois heures.
Je suis d'accord.
Donc, il y avait des solutions meilleures.
Et répondre régulièrement, avec un suivi, à tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux, fake news de toute nature, etc. etc. Il y a une chose d'un mot intéressante, de mon point de vue, c'est que c'était tellement fort visuellement, tellement fort physiquement... tous ceux qui passaient là-bas, habitants de Rouen ou de la région ou autres, disaient mais on a des malaises, on se sent pas bien, etc.
Les vomissements.
Voilà, on est à maintenant 5 mois des municipales. Moi, je suis sûr que cette affaire va avoir un impact sur les élections municipales. À Rouen, c'était une évidence.
C'est pas la faute du
maire.
Même
ailleurs, parce que c'est là où on voit un phénomène avec des conséquences et sans doute des causes écologiques, notamment. Et de voir la répercussion que ça va avoir dans la manière dont les gens vont se dire là, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut plus laisser faire ça, et puis on est mal informé, etc. etc. Je pense qu'il y aura des conséquences dans les élections municipales qui arrivent.
Bon, cela dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile.
J'ai commencé en disant ça, que c'était très difficile, qu'il n'y avait pas de leçon à donner.
Et par exemple, pour reciter Jaffré, il se moque d'Edouard Philippe qui dit qu'il sait que la parole public est déconsidéré, mais que néanmoins il doit s'exprimer, et s'exprimer en rationalité. Et il dit qu'il ne doit pas dire ça alors qu'il a la parole publique. Moi, je pense qu'au contraire, là, pour le coup, je ne suis plus d'accord avec lui. Je pense qu'au contraire, si on veut que les gens vous écoutent, c'est
mais
pas
faut
plus
être
mal.
Sincère,
voilà, il faut être sincère.
Oui.
Et il faut dire qu'on a conscience du fait qu'il y a peu de gens qui vous portent crédit. Peu de discrédit qui touche aussi les experts. Hein, parce que les experts vous mentent, par définition.
Ce qui m'a frappé, mais je ne voudrais pas tomber dans la caricature, mais on a beaucoup parlé de grands débats pendant des mois. Macron en a refait un avant-hier sur les retraites. Là, s'il y avait, entre guillemets, un grand débat à faire avec 2-3 ministres, des experts indépendants, etc., avec la population de toute la région qui se pose des questions légitimes, il fallait le faire.
C'était la suggestion.
Oui, à condition d'avoir des réponses.
À condition d'avoir des réponses. De même que nous, on aurait dû parler des retraites à condition d'avoir des réponses. Et je voulais signaler l'excellent livre de Pascal Perry, « Retraite, la dernière chance ». Aux éditions L'Archipel, qui donnent des réponses. Les retraites, on y reviendra. On a privilégié les grandes questions médiapolitiques grâce à Patrice Duhamel, que je remercie. Et puis, je dois aussi remercier Jean-Luc Arblat, parce que question dénichée des chansons qu'on ne connaît pas, champion le gars, notre réalisateur. Il nous a trouvé une chanson sur la pollution, ça d'accord, de Johnny Hallyday.
Oui.
Alors là, déjà, ça surprend. Et figurez-vous quand ? En 1970, écoutez.
Un visionnaire.
Les lapins se meurent dans les champs pollués. Les poissons crevés dans les mers polluées. Et les hommes sont asphyxiés par l'air pollué. Les oiseaux muets dans les arbres. Le muguet fané au printemps pollué. Et les hommes sont usés dans ce siècle pollué. Mais dites-moi ce qu'il faut faire pour exister. Est pollué. Hey. s'arrête pas de fumer. Les fumées ne s'arrêtent pas de polluer. Oui, et les hommes continuent à fabriquer.
Chanson écrite par Jacques Lanzmann, et faites écouter Mediapolis en podcast sur europe1.fr. C'est super. Merci beaucoup encore à Patrice Duhamel,
merci.
À Jean-Luc Arblade, à Capucine Patouillet et à Justine et